Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti, vous l'avez dit. Place à l'info jusqu'à 20h avec à partir de 19h15 la suite de notre série de rétro de l'année consacrée ce soir au Liban après évidemment la terrible explosion du 4 août. À la une ce soir, l'émotion après le choc de la mort de trois gendarmes tués par un forcené dans le Puy-de-Dôme la nuit dernière. Ce sont nos héros, dit Emmanuel Macron lors de cette intervention pour des violences conjugales. Un quatrième gendarme a été blessé. Le forcené, lui, a été retrouvé mort dans sa voiture. Le procureur vient de s'exprimer. On en sait donc un peu plus sur les circonstances de ce drame. On y revient dans un instant. Dans l'actualité de ce mercredi également, le chaos des routiers à Douvres. Les heures sont comptées avant Noël maintenant. La frontière française est partiellement rouverte, mais les chauffeurs doivent se soumettre à un test Covid qu'on ne leur propose pas. Plus de 5000 camions sont bloqués dans le secteur. Les esprits s'échauffent dans des conditions sanitaires difficiles. Reportage à suivre et à 18h20, nous serons avec Laurence Berthelot, la déléguée générale de la FNTA, la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers. En toile de fond, le Brexit. Cette fois, vraiment, ça semble très chaud. On serait tout près d'un accord entre Londres et Bruxelles, sans doute dans la soirée, disent les négociateurs. Ça éviterait donc le no deal. Le Brexit entrerait bien en vigueur comme prévu le 1er janvier, mais rien n'est encore officiel. Le Conseil d'État valide la fermeture des théâtres et des cinémas jusqu'au 7 janvier, décision prise au vu du contexte sanitaire. Mais la plus haute juridiction administrative précise quand même que si la situation s'améliore, eh bien les fermetures ne pourront pas être maintenues. Une nouvelle arme contre la fraude aux allocations chômage. Pôle emploi va pouvoir contrôler les relevés de comptes bancaires de ses allocataires soupçonnés de tricherie. C'est un amendement au projet de loi de finances pour 2021 qui permettra, à compter du 1er janvier, l'an dernier, plus de 18 000 fraudeurs ont été démasqués. Fin de l'isolement pour Jean Castex et pour le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Tous les deux cas contacts d'Emmanuel Macron, ils ont été testés négatifs. L'état de santé du président, lui, présente des signes d'amélioration, fait savoir l'Élysée. La disparition de Rick Azaray à l'âge de 82 ans, on se souvient du Casachoc, de son tube sans chemise, sans pantalon dans les années 70, on reviendra sur sa carrière. Et puis la grosse surprise football du jour, Raymond Domenech devient entraîneur du FC Nantes. Retour étonnant sur les terrains, puisque depuis la déroute de Naïsna, on avait plutôt vu l'ex-sélectionneur des Bleus sur les plateaux de télé. Il y aura d'ailleurs ce soir une journée de Ligue 1, c'est la dernière de l'année. Le temps, Peggy Broche, demain les températures vont baisser.
Exactement, Vincent, surtout sur la moitié nord, on pourra facilement perdre 8 degrés pour les maximales, mais finalement elles seront proches des normales, donc comprises dans le nord entre 6 et 7 degrés, 10 à 15 pour la moitié sud. Côté ciel, au programme de la pluie, du vent, de la neige en montagne sur tous les massifs, de la pluie et du vent d'abord sur la moitié nord et sur la façade est le matin, puis du sud-ouest aux frontières de l'est l'après-midi, et avant et après le passage de la perturbation, on aura quelques éclaircies, des éclaircies qui vont perdurer toute la journée sur le golfe du Lion, mais avec un vent très fort.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
On en sait plus désormais sur le drame qui a coûté la vie à trois gendarmes la nuit dernière à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme alors qu'ils intervenaient pour des violences intrafamiliales. Les trois victimes sont le brigadier Mavel, 21 ans, le lieutenant Morel, 45 ans et l'adjudant Dupuis, 37 ans. Ce sont des héros, a tweeté ce matin Emmanuel Macron, et l'ensemble de la classe politique leur a d'ailleurs rendu hommage tout au long de cette journée. Ils ont été tués par un homme forcené qui a pu s'enfuir avant d'être retrouvé mort dans sa voiture. Le procureur vient de tenir une conférence de presse. Et donc, Anne Le Hénaff, on en sait un peu plus maintenant sur le déroulement de cette tragédie.
Oui, l'homme Frédéric est seul hier soir avec sa compagne Sandrine. Ses deux filles, à elle, ne sont pas là. À 20h52, les secours sont prévenus par une amie de Sandrine. Elle aurait reçu des coups au visage. Ensuite, ce qui s'est passé est encore un peu confus. Le procureur de la République, Éric Maillot, évoque une scène de crime complexe. Des centaines de douilles retrouvées. L'homme de 48 ans a mis le feu à sa maison avant de s'enfuir dans son 4x4.
Il s'écrase contre un arbre, on retrouvera son corps à proximité du véhicule, une arme dans la main, un Glock, et à côté de lui, un fusil d'assaut semi-automatique équipé d'un silencieux, d'une torche et d'un système de visée laser. On a donc affaire à quelqu'un qui était extrêmement déterminé à faire un carnage, quelles que soient les personnes qui se trouvent face à lui.
Il s'est sans doute suicidé avant ou après l'accident, on ne sait pas. C'est un ancien militaire qui suivait une formation d'élagueur. Le procureur n'a pour l'instant pas de traces de plainte pour violence conjugale, plutôt d'un conflit sur le paiement d'une pension alimentaire à sa première femme et d'un profil très inquiétant.
Il pratiquait le tir en compétition, il se disait catholique très pratiquant, on pourrait même dire presque extrémiste. survivaliste. Il fréquentait les stages d'entraînement à la survie. Il semblerait également qu'il était persuadé de la fin du monde prochaine.
Sa compagne, très choquée, est à l'hôpital. Elle n'a pas encore pu être entendue par les enquêteurs.
Anne Le Hénaff. Le Royaume-Uni commence lentement à sortir de son isolement avec la reprise limitée des liaisons vers la France. Mais quelques jours seront nécessaires pour désengorger le port de Douvres. Voilà, quelques jours, ça nous met après Noël, au grand désespoir de milliers de routiers impatients de rentrer chez eux, évidemment, et qui se retrouvent coincés sur des parkings dans des conditions sanitaires très difficiles et sans accès direct aux tests Covid qu'ils doivent absolument passer pour quitter l'Angleterre. Bref, un vrai casse-tête qui fait s'échauffer les esprits. Parmi ces routiers bloqués côté anglais, des salariés de transporteurs de la région de Calais. Écoutez ce reportage d'Emmanuel Michel dans l'une de ces entreprises où le patron prend des nouvelles de ses chauffeurs.
Ouais, Franck.
Ouais, Ludo, salut, ça va ?
Franck, responsable d'exploitation dans une entreprise de transport à Calais, est en ligne avec l'un de ses chauffeurs, bloqué en Angleterre.
Comment que ça se passe, là ?
Là, écoute, tout est bloqué, là, on peut pas passer.
L'enjeu, arriver à faire tester ses chauffeurs pour qu'ils puissent embarquer dans un ferry.
Vous avez obtenu un rendez-vous ou pas ?
Là, pas encore, non, on attend encore confirmation.
Comment vous sentez-vous ?
Un peu seul.
Les autorités ne proposent pas de tests sur place. Les chauffeurs routiers doivent se débrouiller seuls.
Sachant qu'ils sont français et n'étant pas résident anglais, c'est très compliqué. J'ai sollicité un partenaire dans le Kent qui les a pris en charge pour pouvoir effectuer ces tests. Le problème, c'est que les services sont saturés et à l'instant où on se parle, mes chauffeurs sont bloqués, sans test, pour l'instant dans l'impossibilité de pouvoir les faire.
Et sur place, la situation se tend.
J'ai vu que sur Douvres, même entre étrangers et les policiers, les étrangers, ils se tapent dessus.
En milieu d'après-midi, les ports de Douvres et de Calais étaient toujours à l'arrêt. Aucun bateau ne traversait la Manche.
Voilà, pour ce reportage d'Emmanuel Michel, on va revenir sur cette situation dans quelques minutes à 18h20 avec Laurence Berthelot, la déléguée générale de la FNTR, la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers. Le Conseil d'État valide la fermeture des théâtres et des cinémas jusqu'au 7 janvier. Décision prise au vu du contexte sanitaire. La plus haute juridiction administrative veut éviter tout risque d'augmentation de l'épidémie à court terme. Mais attention, le Conseil d'État précise tout de même que si la situation s'améliore, eh bien les fermetures ne pourrait pas être maintenu au seul motif qu'il existe un risque. En 2021, Pôle emploi pourra contrôler les informations bancaires de ses allocataires soupçonnés de fraude. C'est un amendement de la loi de finances 2021, voté la semaine dernière, qui va le permettre. Mais attention, tous les agents de Pôle emploi n'auront pas accès aux comptes bancaires des chômeurs. Ils seront environ une centaine assermentés à pouvoir le faire. Cela dit, Martial You, tout de même, ça pose quelques soucis de confidentialité, non ?
Alors, non, parce que tout est fait pour que la confidentialité soit respectée. Tous les agents de Pôle emploi, vous le disiez, n'ont pas accès. C'est la brigade antifraude, une 140 personnes à peu près, et on ne consultera les comptes bancaires qu'en cas de doute ou de suspicion de fraude. C'est un système qui existe déjà pour les fraudes aux allocataires familiale ou au remboursement de frais de santé, la CAF et l'assurance maladie ont déjà accès à nos comptes en banque.
Voilà, mais comment est-ce qu'on détermine une suspicion de fraude ?
Il y a des systèmes d'alerte en fait, soit les doutes d'un agent de Pôle emploi qui demande de vérifier un dossier en particulier, soit des ordinateurs qui sont dotés de l'intelligence artificielle et qui repèrent les anomalies entre les dossiers CAF, Sécu, Pôle emploi. Maintenant, pour Marc Desplat du Mouvement national des chômeurs et précaires, on va quand même encore stigmatiser les chômeurs avec cette affaire.
Qu'il y ait, comme la CAF, les assurances maladie, etc., une possibilité de vérifier leur identité en interrogeant les télécoms ou le fournisseur d'énergie, ça, on peut le concevoir. Mais les gens qui touchent le RSA, ça dépend pas de ce qu'ils gagnent, ça dépend pas de ce qu'ils ont sur leur compte, ça dépend uniquement de ce qu'ils ont travaillé et ils ont des droits et il faut les appliquer. Alors là, on est vraiment dans une atteinte à la vie privée quand on veut toucher au secret bancaire.
Alors, les principales fraudes, ce sont des gens qui n'actualisent pas leur situation et qui retrouvent un emploi, par exemple avec un salaire, mais qui continuent à toucher les allocations chômage. L'an dernier, on a quand même recensé plus de 18 000 fraudes de demandeurs d'emploi.
Martial You, on marque une courte pause. Et dans un instant sur RTL, on vous donne des nouvelles de la santé d'Emmanuel Macron.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Jean Castex et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, ont pu sortir de leur isolement aujourd'hui. Tous deux cas contact d'Emmanuel Macron. Ils ont en effet été testés négatifs. Quant au président, eh bien, il va mieux, Vincent de Rosier, mais il reste encore isolé à la lanterne.
Oui, Emmanuel Macron est encore à l'isolement, mais c'est très certainement sa dernière nuit dans sa résidence versaillaise. Le communiqué laconique de l'Élysée laisse entendre que le président va mieux, que les symptômes, fatigue, toux, courbatures disparaissent peu à peu. Un proche du chef de l'État précise qu'Emmanuel Macron respecte scrupuleusement les obligations du protocole sanitaire. Autrement dit, il se fera tester ce soir ou demain matin. Et si le test est négatif et qu'il n'a plus de symptômes, il quittera alors Versailles dans la journée, fin de l'isolement présidentiel. Emmanuel Macron pourra donc retrouver sa femme Brigitte et sa famille pour fêter Noël au Touquet ou ailleurs. Emmanuel Macron n'envisage pas de déplacement dans les jours qui viennent. Il y a beaucoup trop de dossiers chauds à gérer, explique un conseiller. Le président, on l'a un peu oublié, mais qui aurait dû être au Liban ce soir pour passer du temps avec les troupes françaises.
Vincent de Rosier, le Liban dont on va largement parler ce soir sur RTL, puisque ce sera l'objet de notre rétro de l'année à partir de 19h15, consacré évidemment à ce pays, à la dérive après notamment la terrible explosion du 4 août dernier. On a donc appris à la mi-journée la mort de Rick Azaray à l'âge de 82 ans. C'est l'ambassade d'Israël en France qui a annoncé la nouvelle en soulignant qu'une des plus belles voix d'Israël en français venait de s'éteindre. Rick Azaray, une voix, mais aussi une sacrée personnalité et des tubes qui ont marqué les années 70. Le chroniqueur et auteur de nombreux livres sur la chanson française, Fabien Lecoeuvre, revient sur cette étonnante carrière.
Rick Azaray est l'artiste des Trente Glorieuses. Jacques Brel l'avait pris sous son aile parce qu'il adorait cette femme, il adorait la manière dont elle chantait en hébreu, etc. Il était fasciné par ça, Brel. Et octobre 61, jusqu'à 62 aussi, elle fera l'Olympia avec Brel et aussi Bobino encore. Brel l'adorait en première partie. Brel a chanté aussi en Israël. Donc c'était l'inverse. C'était Brel qui faisait les premières parties de Azaray en Israël. C'est ça qui était parfois curieux. Le public la retrouve dans un autre registre, La médecine naturelle, avec ce livre sorti en juin 1985, où elle en vendra plus de 3 millions d'exemplaires. Quand on a commencé à vraiment se moquer d'elle, avec cette fameuse bassine où il fallait tremper les fesses pour guérir de certains maux, elle a tout de suite pris le contre-pied. Au lieu de se cacher, elle a accepté l'invitation de Philippe Bouvard, qui lui aussi en maître de radio. Elle l'a fait venir donc dans les grosses têtes. Et puis du seul coup, elle a joué son propre personnage. Elle a exagéré un peu les traits, volontairement. Et elle est devenue extrêmement populaire pendant 5 années, ici à RTL.
Voilà, Casa Choc, évidemment. La carrière de Rick Azaray, vue par Fabien Lecoeuvre. On en arrive au sport. Le plus audacieux des parieurs n'aurait sans doute pas mis beaucoup sur le retour de Raymond Domenech au bord de la pelouse. Et pourtant, eh bien c'est certain, ce soir, l'ancien sélectionneur des Bleus devient l'entraîneur du FC Nantes. Retour inattendu, Christian Olivier, car il n'a plus managé aucune équipe depuis ce fameux, et j'ai envie de dire, Mondial 2010, marqué par les Français par le scandale de Knysna.
Et personne n'a oublié ce plus gros scandale du foot français, grève de Knysna, Mondial 2010, vous l'avez dit, c'était en Afrique du Sud, les Bleus refusent de descendre du bus qui les transporte sur les terrains de foot de leur hôtel. Ils font la grève de l'entraînement en guise de solidarité à Nicolas Anelka, exclu du groupe, accusé d'avoir insulté Raymond Domenech. Comble de l'ironie, de l'absurde et de la mauvaise farce, c'est le sélectionneur lui-même qui lira le communiqué rédigé par les joueurs grévistes.
En conséquence, c'est pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui.
10 ans après, Raymond Domenech, devenu consultant pour la chaîne L'Équipe, ne consentira à aucun mea culpa, mais à une formule facile d'emploi.
Il y a une formule célèbre, responsable mais pas coupable.
La dernière expérience d'entraîneur de club de Raymond Domenech remonte à 93 avec Lyon, sans compter les moins de 11 ans de Boulogne-Billancourt en 2010. À 68 ans, il deviendrait le 15e entraîneur sous la présidence de Valérie Valdemar Marquita. 15, c'est également la position de l'équipe au classement. Une nomination pour 6 mois sans doute en remplacement de l'intérimaire Patrick Collot qui pourrait être rendu officiel ou après le match de ce soir à Lyon ou bien déposé un peu plus tard comme cadeau au pied de du sapin de Noël des supporters nantais.
Christian Olivier, qu'on retrouve à 19h et ensuite en fil rouge car la 17e journée de Ligue 1, la dernière de l'année, se joue ce soir avec 5 matchs à 19h, notamment Bordeaux-Reims ou encore Nice-Lorient et puis les 5 autres à 21h avec Lyon-Nantes, comme vient de le dire Christian, mais aussi PSG Strasbourg, Montpellier, Lille ou encore Angers-Marseille. À signaler également un rendez-vous dans 20 minutes environ à 18h35. On va accueillir ici, on est vraiment ravis, Jean-François Piège, un top chef, un chef au top qui publie le grand livre de la cuisine française. Ah, c'est une véritable bible de ce qu'on appelle la cuisine bourgeoise. Il y a 1000 recettes, des photos magnifiques à vous faire saliver. Je sens qu'on va se régaler tout à l'heure avec Jean-François Piège. Une courte pause et puis dans un instant, on revient sur la situation à Douvres qu'on évoquait dans le journal. Nous serons avec la déléguée générale de la FNTR, Laurence Berthelot. À tout de suite.
RTL Soir.